Les matins de France Culture.
Avec la revue de presse internationale de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Et de quelle façon débute un cauchemar ?
Oui, mais que diable s'est-il passé ? La question soulevée par The New York Magazine témoigne ce matin de la stupéfaction qui a saisi toute la presse ce week-end après la flambée de violences meurtrières observées le long de la frontière israélienne avec Gaza. La marche des Gazaouis, organisée vendredi dernier, devait être une manifestation non violente destinée non seulement à réclamer le droit pour les réfugiés palestiniens de rentrer en Israël, mais aussi à sensibiliser la communauté internationale sur le blocus qui depuis tant d'années étrangle la petite enclave côtière. Au final, elle aura surtout remis à l'ordre du jour la question palestinienne avec une rare intensité. En quelques heures à peine, la marche pacifiste s'est transformée en véritable champ de bataille. 16 Palestiniens au total ont été tués et plus de 1400 autres blessés, soit la journée la plus meurtrière dans la bande de Gaza depuis la guerre de 2014. Et si ce matin le calme semble revenu, note The New York Times, c'est surtout pour mieux laisser la place, dit à une violente guerre à la fois des mots et des images. De part et d'autre de la ligne de front, des vidéos tout d'abord censées désigner l'agresseur circulent désormais sur les réseaux sociaux. Celles produites par l'armée israélienne montrent des jeunes combattants lançant des pierres et autres cocktails Molotov ou bien faisant rouler des pneus en flammes le long de la barrière ultra sécurisée. À l'inverse, une vidéo en particulier a été largement diffusée ce week-end. On y voit deux hommes en train de courir. Ils s'éloignent de la frontière pour rejoindre un autre groupe de manifestants palestiniens. L'un d'eux tient un pneu dans les mains quand soudain il s'effondre, abattu d'une balle dans le dos tirée par l'armée israélienne. À présent, quand les Palestiniens accusent aujourd'hui Israël d'usage disproportionné de la force, de son côté, l'État hébreu rétorque avoir agi pour empêcher une dangereuse violation de ses frontières et précise par ailleurs avoir prévenu qu'il n'hésiterait pas à donner l'ordre d'ouvrir le feu si des Palestiniens s'approchaient de la barrière de sécurité.
D'où cette question, faut-il en déduire que la marche des Gazaouis ne pouvait s'achever que dans le sang ?
Et dans la région, précise la correspondante du Temps, chacun en réalité redoutait l'événement. Tous les ingrédients étaient en effet réunis, dit-elle, pour que la marche du retour dégénère en violence inédite, à commencer par la désespérance dans la bande de Gaza, éprouvée par les guerres, la réclusion, la pauvreté, les pénuries. À cela s'ajoute l'allégresse des Israéliens à l'heure de célébrer le 70e anniversaire de la création de l'État hébreu et qui vient inévitablement rappeler aux Palestiniens leur défaite, sans oublier le transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, qui ne fait qu'ajouter un peu plus encore au sentiment d'humiliation vécu par les Palestiniens. Et puis, si la marche des Gazaouis a été d'une telle ampleur vendredi dernier, ce n'est pas seulement en raison du statut de Jérusalem ou de la proclamation d'indépendance israélienne autour desquelles les protagonistes se font la guerre depuis tant d'années. Non, cette manifestation s'inscrit aussi dans un regain de tension inter-palestinienne entre d'un côté le Fatah de Mahmoud Abbas qui contrôle la Cisjordanie et de l'autre le Hamas à Gaza.
Toujours est-il que cette journée meurtrière a donc suscité l'indignation de la communauté internationale.
Oui, le président turc Recep Tayyip Erdogan notamment a qualifié hier le premier ministre israélien de terroriste, ce à quoi Benjamin Netanyahu a répondu sur Twitter que Tsahal n'avait pas de leçon à recevoir de la part de gens qui bombardent aveuglément depuis des années des populations civiles. La joute verbale s'est ensuite prolongée toute la journée. Erdogan le premier est revenu à la charge. Netanyahu, vous êtes un envahisseur. Réponse de l'intéressé. Erdogan n'est pas habitué à ce qu'on lui réponde, mais il va falloir qu'il s'y habitue. Lui qui occupe Chypre, qui empiète sur le territoire kurde et qui massacre des civils à Afrin ne va pas venir nous parler de valeurs et nous donner des leçons de morale. Et puis surtout, le premier ministre israélien a donc rejeté toutes les critiques, félicitant même, je cite, l'armée la plus éthique du monde.
Et puis lui aussi a été désigné ce week-end comme un envahisseur. Lui, c'est Emmanuel Macron.
Oui, deux jours après qu'une équipe de douaniers français a fait irruption du côté italien de la frontière dans un local réservé à une association qui vient en aide aux migrants. Toute la presse italienne tirait à boulet rouge hier sur la France, relève le site du Courrier International et plus particulièrement donc contre son président. Quand le quotidien de droite Il Giornale accuse Emmanuel Macron de jouer les caïds, son confrère communiste Il Manifesto se frappe le front. Nous sommes aux frontières du réel, dit-il. C'est une insupportable violation de notre souveraineté nationale, s'indigne de son côté Il Messaggero. Les Français violent les frontières italiennes, renchérit pour sa part la Stampa. Basta, s'écrit lui Il Resto del Carlino, qui en légende d'une photo d'Emmanuel Macron particulièrement énervé, titre l'envahisseur. Enfin, pour la Repubblica, le plus stupéfiant, c'est surtout la contradiction entre les déclarations de principe du président Macron. On ne peut pas d'un côté se déclarer solidaire avec l'Italie et de l'autre concevoir d'ériger des murs, exactement comme le font déjà la Hongrie, la Pologne ou la Slovaquie. Emmanuel Macron n'avait-il pas invoqué une Europe ambitieuse et solidaire pour empêcher les frustrations d'alimenter la montée des courants populistes, interroge le journal. Ne s'était-il pas fait le paladin d'une politique européenne commune?
Merci Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.